Voilà.
Donc, je vous présente Nicolas Bouchard, donc professeur de philosophie dans le nord de la France, à Aubourdin, voilà. Qui vient nous parler ce soir de la question de la liberté. La question qu'il va traiter, c'est comment conquérir sa liberté. Nous sommes le jeudi 24 avril 2025. Donc, à toi la parole.
Merci. Bonjour à tous. Donc, cette interrogation de comment conquérir sa liberté, elle peut naître de la phrase de la Boétie dans le discours sur de la servitude volontaire. Je crois que vous avez eu une séance dessus, à savoir « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre », qui est la phrase peut-être la plus connue du discours. Et bien sûr, il ne s'agit pas de méconnaître la dimension analytique sur comment se met en place la tyrannie dans le texte de la Boétie, mais il y a quelque chose qui résiste quand même avec cette phrase. C'est-à-dire que, malgré tout, beaucoup d'individus veulent être libres et veulent ardemment être libres. Et est-ce que pour autant on peut dire que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils manquent de résolution ? Autrement dit, en fait, la Boétie, avec cette phrase, il ne fait que généraliser un problème qui est beaucoup plus général. C'est-à-dire que pour vouloir conquérir sa liberté, il faut déjà se sentir libre. Donc, c'est peut-être d'ailleurs le sens du contraint. Il faut que les individus s'autorisent à être libres. Et le problème, il est alors criant, puisque seul peut conquérir sa liberté celui qui a conscience d'être libre. Donc autrement dit, mais le problème, c'est que si on doit conquérir sa liberté, bah, c'est qu'on n'est pas libre. Donc en fait, on est un peu bloqué, quoi. C'est-à-dire que c'est le propre de l'oppression d'anéantir la liberté. L'oppression, je vais donner une définition très très générale, hein, c'est le fait de faire peser une autorité tyrannique ou une domination brutale sur soit un individu ou sur un groupe d'individus. Et donc c'est une force qui accable. Et donc si elle accable celui qui l'a subi, il n'a plus vraiment conscience de sa liberté. Donc, à partir de là, cette petite analyse de l'oppression, la conquête de la liberté devient quelque chose d'inaccessible, puisque l'oppression, justement, nous fait perdre la conscience de notre liberté et qu'il faut la conscience de la liberté pour pouvoir la conquérir. Donc, elle devient inaccessible à celui à qui elle serait le plus utile. C'est-à-dire que celui qui doit conquérir sa liberté, c'est justement celui qui semble en être incapable. Et pourtant, malgré l'inaccessibilité, l'opprimé cherche malgré tout cette conquête désespérée. Autrement dit, la conquête de la liberté semble pour l'opprimé une nécessité. Et ce, même dans le cas d'une soumission ou d'une résignation. C'est-à-dire que la soumission à quelqu'un, la résignation à son sort, ne vaut pas pour acceptation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se résigne à l'oppression qu'on l'accepte et qu'on ne souhaite pas ardemment sa liberté. C'est-à-dire qu'autrement dit, je peux me résigner sans accepter mon sort. Et peut-être que c'est même peut-être du coup parce que la tâche de la conquête de la liberté lui semble inaccessible qu'elle est d'autant plus urgente, en fait. Donc, si on devait très rapidement résumer ce problème, on pourrait le résumer sous la forme... Je donnais juste la forme d'une question, histoire de recentrer un peu le problème. Comment la conquête de la liberté peut-elle être aussi urgente pour l'opprimé, alors qu'apparemment, celle-ci suppose la conscience d'être libre, perdue par le dominé ? Donc, on va d'abord voir que, justement, le fondement de toute libération, c'est la conquête de ce que j'ai appelé à la suite d'un certain nombre d'auteurs d'une subjectivité historique. Alors, le terme de subjectivité historique peut sembler un peu barbare, mais en fait, la notion de sujet historique, elle est beaucoup plus concrète qu'elle n'y paraît. Traditionnellement, la notion de sujet, on laisse de côté l'histoire 30 secondes, la notion de sujet en philosophie, c'est celui qui est à l'origine de ses actions. C'est l'acteur, par opposition à l'objet, qui lui subit l'action. Donc, le sujet historique, c'est lorsqu'un homme ou un groupe d'hommes devient acteur de son histoire. De manière assez lyrique, parfois, on trouve sous la plume de ceux qui soit veulent dénier, il entre dans l'histoire. Un président, jadis, avait dit que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Mais, du coup, si il devient sujet, si je dis qu'il y a une conquête de la subjectivité historique, cela sous-entend qu'il devient acteur, et donc s'il devient acteur, c'est qu'il ne l'était pas encore. C'est-à-dire que la position d'acteur doit se conquérir. Et donc, au fond, la trace, la marque de l'oppression, c'est justement la suppression de cette capacité d'agir sur son histoire. Autrement dit, l'opprimé est objet, il est joué de l'histoire, et voilà, comment, à partir de cette position d'objet de l'histoire, on devient un sujet historique. Et la première étape, c'est qu'il faut sortir de l'écrasement des esprits et des corps. C'est-à-dire que, autrement dit, pour voir comment on devient un sujet historique, il faut voir un petit peu plus en détail ce que l'oppression fait aux hommes. Et pour cela, on peut partir un petit peu des analyses de Simone Veil, donc, qui est une philosophe française. Je crois aussi que vous en avez déjà un petit peu parlé. J'ai vu passer un mail.
Petit échange sur ce sujet.
Oui, oui. Donc Simone Veil, philosophe française du début du XXe siècle, assez inclassable sur pas mal de plans. Élève d'Alain, donc rationaliste. Voilà, plutôt athée, et elle, très catholique, mais en même temps anarchiste, enfin voilà, une femme de...
À ne pas confondre avec Simone Veil.
Oui, voilà, voilà. Simone Veil, donc, du coup, voilà, ne pas confondre avec la ministre de la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, on va partir notamment du texte qui est le texte 1, si vous voulez, qui est un très courtesque texte, qui est « La réflexion sur les causes de la liberté, de l'oppression... » Les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. » Qui est, en fait, l'essentiel des œuvres de Simone Veil sont posthumes. Et ça, c'est un des très rares textes qu'elle considérait comme réellement abouti. Elle appelait ça son grand œuvre. Et, autrement dit, elle part dans ce texte... C'est pas l'extrait que vous avez, mais elle part dans ce texte de l'échec des tentatives de libération. Et notamment, l'échec principal, pour elle, donc elle écrit ça en 1934, l'échec principal, c'est l'échec de la révolution en URSS. Voilà. C'est-à-dire que la tentative de libération du prolétariat en URSS se solde, dès 1927, et en 1934, c'est clairement acquis, par l'installation du stalinisme. Et puis, ce texte se fonde aussi, en 1934, l'ensemble des totalitarismes commence à être mis en place, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en URSS. Et son point de départ, en fait, il est très classique. La liberté de l'homme se fonde sur sa capacité à penser. Mais sur sa capacité à penser réellement. À chaque fois que l'homme est capable d'une pensée authentique, d'une pensée qui lui vient réellement de lui-même, il affirme sa liberté. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toute l'histoire de la pensée. Mais elle insiste bien sur l'idée d'une pensée authentique. Et ce qui fonde l'oppression sociale, justement, c'est que notre société nous empêche de penser, réellement. Une société où l'homme pense, ce serait une société où, par exemple, il peut, c'est plus qu'un exemple en fait, où il peut réfléchir son travail. C'est-à-dire que non seulement il ne fait pas son travail mécaniquement, non seulement il pense quand il travaille, mais il réfléchit à la place que son travail occupe dans sa vie. Ce serait aussi une société où l'homme contrôle les mécanismes sociaux. Or, dans la société moderne, l'organisation du travail, avec, on peut penser au travail à la chaîne, hein, qu'elle a vécu, elle, puisqu'elle a fait l'expérience du travail d'usine, donc l'organisation du travail, les relations sociales dans leur ensemble, les techniques de communication, de travail, et même les techniques qui nous envahissent dans la vie quotidienne, tout cela trahit la pensée et nous empêche de développer une réelle pensée. On peut penser à un exemple qu'elle n'a pas connu, mais quand on est soumis à des sollicitations permanentes sur les réseaux sociaux, des notifications, la pensée ne peut pas se développer et la pensée trouve une forme tellement affadie à travers les messages en 120 caractères que à aucun moment il ne peut se développer une pensée authentique. Donc autrement dit, on se retrouve dans une société d'esclaves. Une société d'esclaves, or l'esclavage, c'est ce qu'elle note dans l'extrait que vous avez, l'esclavage avilit l'homme jusqu'à s'en faire aimer. Au fond, l'esclave finit par aimer l'esclavage. Elle reprend là une citation de Rousseau. C'est-à-dire pourquoi l'esclave va finir par aimer son esclavage, c'est non pas qu'il aime être soumis à quelqu'un, c'est pas ça. C'est que la pensée est exigeante. Et la pensée suppose un soin de soi, suppose des efforts dont nous détournent les conditions de vie. Voilà. On préfère, encore une fois, s'égarer sur les réseaux sociaux, regarder un truc débile à la télé, plutôt que, voilà, on préfère être dans le quotidien de notre vie moderne nous empêche de prendre soin de nous empêche de développer une pensée et donc nous rend esclaves et quelque part, à la fin, on finit par redemander un nouvel épisode à la télé. Et donc on finit par aimer la télé. On finit par aimer la télé, oui, et on finit aussi par aimer l'esclavage. Du coup. C'est ça, c'est en ce sens-là qu'il s'agit d'entendre aimer l'esclavage. Et en ayant cela en tête, elle va relire, et c'est le texte 2, elle va relire en fait la Boétie, elle va relire le discours de la servitude volontaire. C'est-à-dire que le deuxième texte, donc les méditations sur l'obéissance et la liberté, c'est un court article qu'elle fait qui suit justement sa lecture du contraint. C'est-à-dire qu'elle est à la fois très admirative de la formulation par la Boétie du problème qui date quand même, quand elle écrit, de 3 siècles, et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de remarquer une aporie de la Boétie. C'est-à-dire qu'il ne donne pas beaucoup de solutions. Voilà, il y a cette phrase, « Soyez résolus de ne plus se servir », mais bon, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'individus qui sont résolus de ne plus servir et qui n'y arrivent pas. Et pour elle, notamment, l'erreur d'analyse de la Boétie se situe, porte sur le statut du nombre. Vous voyez, la Boétie, dans son discours, comment ça se fait que vous qui êtes les plus nombreux, vous vous soumettez à un seul tyran, alors que vous pourriez le renverser quasiment d'une chiquenaude. Et justement, en retravaillant ce problème du nombre, cela éclaire la liberté, le problème de la liberté. Vous voyez, puisque c'est le tout début du texte 2, hein, puisque le grand nombre obéit et obéit jusqu'à se laisser imposer la souffrance et la mort, alors que le petit nombre commande, c'est qu'il n'est pas vrai que le nombre soit une force. C'est-à-dire que la soumission du plus grand nombre au tyran n'est qu'une apparente contradiction. Puisqu'en fait, le grand nombre n'est qu'une juxtaposition d'individus. Le grand nombre ne fait jamais une totalité. Au fond, ce que propose Weil ici, c'est l'analyse de la masse que fera Arendt dans Les origines du totalitarisme. C'est-à-dire que Arendt, comment elle définit la société de masse? C'est une société dans laquelle les individus ont une absence d'intérêt. L'inter-est, c'est ce qui est entre les individus, ce qui relie les individus entre eux. Et la société de masse, c'est une société dans laquelle les individus ne sont pas reliés entre eux. Et donc, dans ces conditions, puisque les individus ne font pas un tout, n'entretiennent pas de vraies relations entre eux, la résistance est impossible. La cohésion du grand nombre est impossible, et il est illusoire, utopique, de rêver à une organisation de la masse. Une organisation de la masse va à l'encontre de l'essence même de la masse. L'essence même de la masse, c'est d'être désorganisé. Et à partir de ce moment-là, autrement dit, c'est le principe de la société de masse, elle se laisse dominer par le premier Hitler qui vient. Hitler. C'est un nom générique, hein. Ça pourrait être Staline ou Trump. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les hommes sont vulnérables à ce CEX, ou à ce CE, qui les réduisent à l'état de choses. Les hommes se laissent réduire à l'état de choses. Malgré tout, on note quand même, vous voyez, troisième paragraphe, il y a cependant des moments où il n'en est pas ainsi. À certains moments de l'histoire, un grand souffle passe sur les masses. Leur respiration, leurs paroles, leurs mouvements se confondent. Alors, rien ne leur résiste. Et là, les puissants, ils sont pas bien. C'est-à-dire qu'il y a quelques moments de grâce, quelques moments où l'impossible se produit. La masse cesse de se conduire comme une masse. Et c'est des moments où elle commence à faire son histoire. Ce que, je ne sais pas si je l'ai laissé dans l'extrait, ce que Simone Veil a en tête, c'est juin 36. Elle écrit ce texte en 37 ou 38, et vraiment, elle a en tête les ouvriers qui occupent les usines en 36 et qui prennent en main leur histoire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment où on cesse de se soumettre au cours de l'histoire et à ce qu'elle appelle l'idole sociale. C'est-à-dire qu'on arrête de croire que c'est la société qui nous accable. Autrement dit, c'est des moments où on redevient un sujet. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que l'état du quotidien, ok, j'occupe mon usine, mais il faut bien que je fasse à manger. Puis il faut aller coucher les enfants. Donc, et puis voilà. Et l'état de la civilisation. Alors, il n'y a pas de smartphone, mais il y a l'équivalent. Voilà. L'état du quotidien et de la civilisation sont tels que ces moments de grâce ne durent pas. Et au fond, elle est assez pessimiste là-dessus. C'est-à-dire que la conclusion qu'elle donne dans son texte, c'est que si on aime la liberté, on ne peut pas souhaiter la disparition des luttes sociales. Parce que ce n'est que par ces luttes, que l'homme peut reconquérir un peu de sa pensée, de son droit de citer. Autrement dit, la liberté politique, c'est toujours une subversion, de l'ordre social existant. C'est se faire droit là où on n'y était pas autorisé. Bah, voilà, justement, pour reprendre l'image de juin 36, c'est Deleuze qui explique, donc Deleuze qui est d'une famille, Deleuze philosophe plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, qui était enfant en 36, et qui est d'une famille bourgeoise et qui explique que ses grands-parents étaient effarés quand les prolétaires ont pris le train et ont débarqué sur la plage à Deauville. Non, c'est notre plage, comment ces gens peuvent s'autoriser à venir sur notre plage? Donc autrement dit, pour conquérir notre liberté, ça sera mon deuxième point de la première partie, il faut remettre en cause le partage du monde. C'est-à-dire que pour conquérir sa liberté, pour devenir un sujet politique, il faut subvertir un ordre social qui, là je reste un petit peu 20 secondes sur Simone Veil, voilà, qui est essentiellement mauvais. L'ordre social est essentiellement mauvais, puisqu'il va toujours avoir tendance à nous soumettre. Et il faudra lutter contre cette pesanteur pour conquérir sa liberté. Et cela, ça remet en cause toute la tradition de la liberté politique. Liberté politique, c'est la liberté que nous donne la communauté politique. Voilà. Traditionnellement, voilà, la philosophie politique d'Aristote justement, je m'arrête à part Platon, mais d'Aristote jusqu'à Rousseau, va affirmer que la liberté politique réside dans l'organisation de la société, dans l'organisation des pouvoirs. C'est-à-dire que Montesquieu, bon, on peut prendre Montesquieu, hein. Montesquieu, voilà, comment on va pouvoir gagner de la liberté politique ? Bah, grâce à la séparation des pouvoirs. Seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir. On organise les pouvoirs de telle façon qu'ils se limitent. Et comme ça, on n'est pas opprimé par, par ces pouvoirs. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ce que fait toute la tradition de philosophie politique. C'est comme ça qu'elle analyse la liberté politique. Mais justement, si on organise quelle liberté ? On organise les libertés de ceux qui la possèdent déjà. Si l'homme est un sujet politique, c'est parce qu'il a le langage et qu'il peut débattre. Ça, c'est l'analyse d'Aristote. Hein. Si l'homme est un sujet politique, c'est parce qu'il a le langage. Il est naturellement un animal politique. Parce qu'il a le langage, et donc, du coup, en ayant le langage, il peut débattre avec les autres hommes du juste et de l'injuste. C'est ça, être un animal politique. C'est avoir le langage pour discuter du juste et de l'injuste. En apparence, c'est évident, du coup. Ceux qui ont le langage sont libres et donc ils peuvent s'organiser politiquement. Mais, justement, c'est peut-être cette évidence qu'il s'agit de remettre en cause. Et c'est une remise en cause qui va traverser toute l'œuvre de Jacques Rancière. Jacques Rancière, qui est un philosophe français du XXe et XXIe siècle, et notamment qui se cristallise autour de la notion de mésentente ou de dissensus. Le partage des choses soi-disant évident, c'est-à-dire, voilà, on se partage les libertés, entre les êtres politiques qui ont le langage et les autres, justement, il est soi-disant évident. Ce n'est pas de la politique pour Rancière. C'est-à-dire que c'est de la police. Rancière, il va créer une distinction entre le politique et la police. La police, il le définit comme, voilà, c'est le texte 3, hein, j'ai opposé la politique à la police, et ce que j'appelle police, c'est toujours dans le premier paragraphe, début de la page 2, c'est une structuration de l'espace commun, où les dominations apparaissent fondées sur un système d'évidence sensible. C'est-à-dire que, autrement dit, la police, c'est la gestion de l'ordre existant. Et du coup, on exclut les dominés du processus de décision. C'est exactement ce que fait Aristote. Bah, l'homme est un animal politique, et donc il peut s'organiser politiquement grâce au langage. Mais bon, bah, les barbares, ils n'ont pas vraiment le langage. Donc, bon, voilà. Puis, les femmes, certes, elles ont le langage, mais bon, elles savent pas bien maîtriser leur passion, donc elles vont pas non plus, on va aussi, voilà. Vous voyez, on exclut ces gens-là du processus. Et les esclaves, même chose, les esclaves ne savent pas se dominer non plus. Il y a des gens qui sont naturellement esclaves, on peut pas les inclure dans le processus politique. Et donc, du coup, voilà, ça justement, ce que dit Rancière, c'est que c'est pas de la politique, c'est de la police. La politique et la démocratie, qui l'identifie quand même assez rapidement dans son texte, mais la politique, la démocratie, c'est aller à l'encontre de ce partage existant. La politique, la démocratie, c'est quand ceux qui n'y sont pas autorisés prennent la parole, participent à la décision, même simplement prennent leur place. Quand Rosa Parks s'assoit dans un bus à la place qui ne lui est pas définie, la place qui lui est interdite, voilà, elle remet en cause le partage existant, le partage évident du sensible. Les ouvriers de 36. Quand Olympe de Gouges dit « si les femmes ont le droit de monter sur l'échafaud, elles doivent avoir le droit de vote », même chose, elle remet en cause un partage qui paraît évident. Voilà. Donc, mais alors, dans ce cas-là, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce possible ? Puisque seuls ceux qui ont le logos, le langage, peuvent s'organiser. C'est justement là qu'intervient la distinction qui est chez Aristote, hein, entre le langage raison, qui est le terme logos en grec, et la voix. ce que Rancière appelle phoné. C'est dans le dernier paragraphe du texte. C'est-à-dire que quand dans le texte d'Aristote, il est clair que l'homme seul parmi tous les animaux grégaires est un animal politique parce que l'homme seul a le langage. Les autres animaux ont la voix. Ils peuvent crier de douleur. Mais ils sont incapables du bien, de délibération sur le juste et l'injuste, sur le bien et le mal. Voilà. Ils crient de douleur. Voilà. Justement, le problème, c'est que ce que dit Rancière, c'est que cette apparence-là, cette distinction logos-phoné, elle n'est pas naturelle. C'est une pseudo-nature. Reléguer certains êtres au rang de ceux qui ne possèdent pas le langage, c'est le résultat d'un conflit. Devenir un sujet, c'est avoir le langage, c'est gagner sa liberté. C'est-à-dire que donc, du coup, il faut faire bouger les lignes du conflit. Il faut repartager différemment les rôles et prendre la parole. Alors, bien entendu, ça paraît toujours inadmissible aux tenants de l'ordre policier. Policier au sens, pas au sens la matraque, hein. Policier au sens de Rancière, c'est-à-dire de la gestion de l'ordre existant. Forcément, les tenants de l'ordre policier, ils se répartissaient les rôles entre eux. Si quelqu'un intervient, ça bouge toute la répartition, on est obligé de faire de la place. C'est-à-dire que ces personnes étaient inexistantes en tant que sujet. C'était plus ou moins des choses. C'était ce que dit Aristote des esclaves, c'était des êtres animés, des choses animées. Voilà. On a du bol, c'est des choses, elles comprennent ce qu'on leur dit, c'est très bien, mais ça reste des choses. Voilà. Et donc, que des choses prennent la place des sujets, ça paraît inconcevable à ceux qui tiennent au tenant de l'ordre établi. Donc, ce sera toujours ressenti comme une violence. Ils ne parlent pas comme il faut. Voilà. Ils prennent quelque chose qui ne leur est pas destiné. Comme avait dit un candidat à la présidentielle, qui va garder les enfants ? Voilà. Et donc, ça sera toujours ressenti par une violence, par ceux qui possèdent, qui sont déjà des sujets politiques. Et à l'inverse, il y aura toujours forcément une part de violence dans cet ordre, puisqu'on bouscule un ordre établi. Et voilà, on est forcé de se faire de la place là où on n'y était pas autorisé. Donc il y aura forcément une part de violence. Et justement, la notion de violence est le point aveugle de ces réflexions. Et je pourrais généraliser, plus généralement, c'est le point aveugle de quasiment tous les intellectuels qui réfléchissent justement sur la révolution, sur la conquête de la liberté. Souvent, ils nous font, la plupart des intellectuels, voilà, nous font un avant-après. Avant, on était opprimé. Après, on sera libre. Et bon, oui. Ça va un peu secouer, mais le moment où on conquiert sa liberté n'est que très rarement analysé dans le détail. Voilà. Au fond, comme la fin est bonne, conquête de la liberté, on occulte les moyens. Voilà. C'est vraiment comme les publicités pour le régime. Hein. Il y a le avant, le après. On voit pas toute la difficulté qu'il y a entre le avant et le après, quoi. Sauf que cette phrase, comme la fin est bonne, on occulte un peu les moyens, elle ne fonctionne pas. La distinction entre fin et moyen n'a pas vraiment de sens en politique. C'est-à-dire, comme les moyens sont des actions, ils transforment les hommes et ils transforment également la fin qu'on s'était donnée. Une liberté conquise par la violence n'est pas la même chose qu'une liberté qu'on nous a donnée. Une liberté conquise par le mensonge, par la ruse, pas, voilà. Tout ça, ça change forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais on ne peut pas dire peu importe les moyens. Les moyens influent sur la fin. C'est très bien montré notamment par Simone de Beauvoir. Et donc, autrement dit, puisque la conquête sera forcément violente, il faut forcément interroger les effets de la violence comme moyen dans la conquête de la liberté. Et ça sera l'objet de ma deuxième partie, c'est-à-dire, est-ce que le fait de lutter pour l'émancipation, est-ce que la lutte, sous-entendu violente, puisque la lutte est toujours plus ou moins violente, ne risque pas de détruire cette liberté qu'on cherche à conquérir? Donc voilà, la deuxième partie, la lutte pour l'émancipation au risque de la destruction de la liberté. C'est-à-dire que il y a un consensus, et vraiment là un consensus global, pour dire que la violence, c'est mal. Voilà. J'ai l'impression de parler à ma fille de 8 ans, la violence, c'est mal. De 10 ans, pardon. Donc, la lutte pour l'émancipation ne peut que passer par la violence. Et si les moyens changent les fins et les hommes, le risque, c'est de perdre son humanité dans la lutte. Et le problème de la violence, on peut le généraliser même à la lutte, vraiment toutes les formes de lutte. Par définition, la lutte pour l'émancipation se plie au réalisme politique. Je parlais de la ruse, du mensonge, de la dissimulation. Voilà. Avant de rentrer en révolte, l'esclave ne va pas dire au maître « Dès que je pourrai, je me révolterai ». Ben non, il dissimule, forcément. Autrement dit, cette lutte pour l'émancipation, ce n'est jamais un idéal pur. Et donc, la lutte qu'on va mener transforme l'émancipation qu'on cherche. Et donc, forcément, est-ce qu'à conquérir sa liberté, on n'y perd pas de la liberté ? Autrement dit, la lutte et la violence peuvent-elles permettre de redonner la liberté à l'opprimé, alors qu'elles risquent de constituer une perte d'humanité ? Autrement dit, donc, il s'agit d'examiner le lien entre violence et liberté, le lien entre la violence et la lutte pour l'émancipation. Ce que je vais faire dans le premier temps de cette deuxième partie. C'est-à-dire que si la violence est incontournable dans la lutte contre l'oppression, c'est parce que l'oppression elle-même est une violence radicale qui détruit l'humanité. Conséquemment, on ne peut pas s'en sortir par des demi-mesures. C'est ce que va montrer Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre. Donc Frantz Fanon, je crois qu'il y a un film qui est sorti actuellement sur sa vie, c'est un psychiatre algérien, donc il était antillais, et il est nommé médecin, donc il est nommé dans un hôpital psychiatrique à Blida, donc au fin fond de l'Algérie, au début des années 50. Et de fait, il est confronté aux réalités du monde colonial et c'est la découverte, qu'il avait déjà un peu vu en tant qu'antillais, voilà, mais c'est la découverte de ces réalités du monde colonial qui va fonder son engagement. Dans un premier temps, il analyse le mécanisme du racisme dans un livre qui s'appelle « Peau noire, masque blanc ». Et à partir de là, il développe une pensée qu'on pourrait qualifier de tiers-mondiste. Et quand la révolution algérienne commence, 1954, il démissionne de son poste et il prend parti pour le FLN et il va monter un hôpital dans le Maquis. En fait, pour hôpital où il est attesté qu'il a soigné à la fois les combattants du FLN mais aussi les appelés français qui étaient blessés. Et donc, dans Les damnés de la Terre, qui est l'œuvre peut-être la plus connue de Fanon, il analyse à la fois la violence coloniale, les mécanismes de la violence coloniale, et aussi les possibilités de s'en sortir. Or, la violence coloniale, c'est une violence, et là-dessus, c'est pas le seul à le dire, hein, quelqu'un comme Aimé Césaire le dira aussi dans le discours sur le colonialisme, c'est une violence chimiquement pure. Parce qu'elle ne s'embarrasse quasiment d'aucune justification, d'aucune illusion. La violence du monde du travail se masque derrière une apparente égalité, le contrat de travail, des choses comme ça, le fait qu'on puisse théoriquement démissionner, même si c'est pas le cas parce qu'il faut quand même gagner sa croûte, il y a quand même un habillage qui un petit peu maquille cette violence. Dans la violence coloniale, rien de tout ça. C'est l'oppression par excellence. C'est une violence qui est donc négatrice de toute humanité. On pourrait croire que c'est le cas de toute violence. Et d'une certaine manière, les révélations sur Bétharam auraient tendance à nous le faire croire, par exemple. Au niveau individuel, éventuellement. Au niveau individuel, toute violence est négatrice de l'humanité. Encore que. l'arbitraire de la violence coloniale, l'intensité extrême, en fait déjà une violence spécifique et une violence encore plus négatrice de l'humanité que d'autres violences. Mais surtout, ce que la violence coloniale rajoute à n'importe quel autre type de violence, c'est qu'elle est négatrice également des formes collectives de la vie humaine. C'est-à-dire qu'elle détruit, puis empêche, toute forme culturelle. Vous voyez, il parle dans le texte 4 de la destruction des formes sociales indigènes. On a démoli les systèmes de référence de l'économie, les modes d'apparence, d'habillement. Et si j'avance un tout petit peu dans le texte 5, vous voyez, deuxième paragraphe du texte 5, donc c'est page 3, l'apparition du colon a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie culturelle, pétrification des individus. Autrement dit, c'est ce qui montre à la fin du texte 4, la colonisation est une animalisation du colonisé. Et face à cela, on ne peut pas sortir de l'oppression par un discours universel abstrait où tous les hommes seraient égaux. Vous voyez, c'est ce que... Voilà. La mise en question du monde colonial par le colonisé, deuxième paragraphe du texte 4, la mise en question du monde colonial par le colonisé n'est pas une confrontation rationnelle des points de vue. Elle n'est pas un discours sur l'universel, mais l'affirmation échevelée d'une originalité posée comme absolue. Autrement dit, cette sortie par l'universel abstrait, c'est-à-dire où on prouverait que tous les hommes sont libres et égaux, et donc qu'on peut retisser un lien entre des hommes qui, avant, s'opprimaient, c'est le rêve de tous les intellectuels. C'est le rêve, enfin de tous les intellectuels qui, en tout cas, croient en l'égalité des hommes. C'est-à-dire que c'est le rêve des intellectuels métropolitains progressistes, de la gauche progressiste métropolitaine, croit à cette universalité abstraite et ne comprend pas pourquoi il y a une telle revendication nationale du point de vue des Algériens ou des points de vue de n'importe quel peuple colonisé. C'est le rêve aussi de la toute petite frange intellectuelle issue du monde colonial qui a été en fait formée par les structures de ce monde colonial. Mais la violence de la colonisation la lutte pour l'émancipation menace tellement l'existence du monde colonial que cet universel abstrait, cette universalité, elle est impossible. La violence, la lutte violente, est la seule issue. Et bien plus, pour Fanon, vous voyez, toute fin du texte, et ça s'est développé vraiment dans le texte 5, précisément, dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher. C'est-à-dire que c'est par la violence que l'opprimé va éprouver son humanité. La violence de la lutte de libération, ce n'est pas une simple réaction. C'est-à-dire que, justement, croire que la violence du colonisé répond à la violence du colonisateur, justement, là, c'est de l'illusion abstraite de celui qui n'a pas vécu la société coloniale. La violence du colonisé, elle est aussi action, et pas seulement réaction. C'est-à-dire qu'elle est, ce que dit, voilà, parce qu'elle constitue le seul travail du colonisé, elle revêt des caractères positifs et formateurs. La praxis violente est totalisante, elle unifie le peuple. Autrement dit, cette violence, elle est créatrice du peuple. C'est l'affirmation de l'humanité du colonisé, pour Fanon. C'est comme cela qu'il fait irruption sur la scène de l'histoire. Et autrement dit, la violence lui permet aux colonisés de faire coup double. Un, elle le libère de l'oppression. Et en plus, il atteint sa liberté. Il devient sujet historique. Il y a même... Elle régénérerait l'humanité. Vous voyez ? Au niveau des individus, dernier paragraphe du texte, au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe. Donc autrement dit, voilà, grâce à la violence, l'individu serait régénéré. Et c'est peut-être cette dernière étape qui peut laisser un petit peu perplexe chez Fanon. À tel point que on pourrait presque parler d'un clivage dans son œuvre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une description de l'aliénation extrêmement précise des structures coloniales, comment les structures coloniales détruisent l'homme, supprimées immédiatement et presque magiquement par la lutte. Donc, il y a une idéalisation de la violence, en fait, chez Fanon. Idéalisation qui est compréhensible. Hein. Bon, voilà, faut pas oublier qu'il a une position de combattant et qu'il faut quand même tenir cette position de combattant. Mais si l'oppression ruine toute humanité, sa reconquête ne peut pas être l'effet d'une lutte magique, d'une application magique de la violence. Tout se passe un peu comme s'il avait oublié la première partie de son œuvre quand il analyse la violence. Et donc, c'est pour cela qu'il s'agit de voir l'oppression comme une situation impossible. Et donc c'est le deuxième temps de ma deuxième partie. C'est-à-dire que, ce que je disais, hein, c'est compréhensible, c'est-à-dire que la romantisation de la violence, elle est presque inévitable par le combattant. Voilà, pour rester dans le thème de la guerre d'Algérie, il n'y a qu'à voir la bataille d'Alger. Voilà, dans la bataille d'Alger, les combattants FLN ont une application noble de la violence, ce qui n'était bien sûr pas le cas, en fait. Et sans cela, en fait, si on ne romantise pas la violence, on perd toute raison de lutter. Mais justement, que le combattant pense ça, c'est une chose. Mais cela ne doit pas nous dispenser d'une analyse plus profonde de ce qui est à construire pour réellement atteindre l'humanité et la liberté. Et c'est peut-être l'absence de cette seconde tâche, l'analyse de ce qui est à construire, qui peut expliquer l'échec presque de toutes les révolutions. C'est parce que, comme on se concentre sur l'oppresseur extérieur, on en oublie une lutte interne, une lutte avec soi. C'est-à-dire qu'on en oublie la lutte contre les structures internes de l'oppression. Et celle-ci reste intacte. Et finalement, on finit simplement... dans la situation que révélait Simone Veil. C'est-à-dire que, voilà, ok, quand le soufflet retombe, quand la masse se recomporte à nouveau comme une masse, tout au plus on a changé de maître, mais on reste toujours soumis. Et c'est justement ce que va montrer Albert Memmi. Albert Memmi, donc, c'est un philosophe franco-tunisien, donc plutôt pareil, il est actif à partir des années 50, jusqu'au début des années 2020. Et donc, c'est un autre penseur décolonial majeur. Albert Memmi, il est issu de la communauté juive pauvre de Tunis. À ce titre, il multiplie les expériences d'oppression. Il subit l'oppression coloniale, puisque, en tant qu'issu de la communauté juive, il n'est pas vraiment considéré comme un colon. Il subit l'oppression raciste de deux côtés, de la part de la majorité musulmane, de la part de la minorité colonisatrice. L'oppression de classe, puisqu'il fait partie il est né dans la misère, et l'oppression antisémite, puisqu'il fait partie d'un groupe encore particulier dans ces groupes, dans cette société coloniale. Et en fait, ce que fait Albert Memmi dans ses textes, c'est qu'il part d'une description extrêmement fine de sa situation vécue, à la fois objectivement et subjectivement. Souvent, à tort, sa pensée est opposée à celle de Fanon, déjà de son vivant. L'interroger, est-ce que vous ne pensez pas que votre pensée s'oppose à Fanon ? Et pourtant, il faudrait plus y voir une complétude. C'est-à-dire qu'à la description clinique du médecin, du docteur Fanon, il faut ajouter l'oppression comme espace vécu d'Albert Memmi. Et notamment, ce que l'analyse qui va suivre, que je vais développer, ne remet nullement en cause la nécessité de la lutte, ni même la nécessité de la violence. Que Memmi, alors certes, il ne s'attarde pas dessus, là-dessus, il a le même défaut que tous les intellectuels, mais il l'affirme quand même. Il y aura besoin d'en passer par la violence. Mais au moins, on évite une chose qui pointe quand même chez Fanon, qui est l'idéalisation de l'opprimé. C'est-à-dire que chez l'opprimé, il y a toujours un refus de soi. Vous voyez, c'est dans le texte 6, hein, « Je prétends que dans tout homme dominé, il y a une certaine dose de refus de soi, née en grande partie de son écrasement et de son exclusion. » C'est-à-dire qu'il y a toujours un refus de soi qui confine même à la haine de soi. L'opprimé a intériorisé le discours colonial. Et donc, du coup, il a tendance à ne pas s'accepter. Et ce n'est pas que subjectif ou psychologique. Étant donné ses conditions de vie, il est sale, il vit dans la misère. Voilà. Étant donné ses conditions de vie, il ne peut pas s'accepter. Il ne peut que se haïr. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, même si on n'a aucune conscience de sa condition, donc ce n'est pas qu'une question de subjective, cette condition n'en existerait pas moins objectivement et elle pousserait au fait qu'on ne peut pas s'accepter. C'est ce que Memmi appelle, vous voyez, hein, donc toute la vie du colonisé est dépendante, et c'est ce que Memmi appelle la carence. C'est le titre, hein, note sur Frantz Fanon et sur la notion de carence. La vie du colonisé est carencée. C'est-à-dire qu'il lui manque toujours de quoi construire son humanité. Donc, certes, la lutte va mettre fin à l'oppresseur externe, mais elle ne comble pas les carences. Et donc, ça va amener Memmi à dire que le décolonisé, le terme pour les hommes qui ont gagné leur indépendance, les peuples qui ont gagné leur indépendance, le décolonisé, le terme est injuste. Le décolonisé, en fait, c'est un homme qui est en voie de décolonisation. Il n'a pas encore complètement conquis sa liberté. Il ne s'est pas encore complètement débarrassé des structures coloniales. Ce qui lui fera dire, dans la libération du juif, le ghetto est également intérieur. Et cette phrase, donc bien sûr, elle montre l'intériorisation de la domination, mais cette phrase, elle a un autre sens. C'est-à-dire que pour se libérer de l'oppression, le dominé doit puiser dans les institutions existantes. Institutions qui, vous vous souvenez, sont carencées. Il doit puiser dans les restes de cultures autochtones, dans la famille, dans certaines valeurs traditionnelles. Mais je rappelle encore une fois, toutes ces valeurs, toutes ces institutions sont carencées. Elles deviennent alors, ce que Memmi appelle des valeurs refuges. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple assez simple. Pour résister à l'oppression, le juif se replie sur ses traditions religieuses. Elles deviennent fétichisées, on ne peut plus y toucher. C'est ce qui a permis de résister à l'oppression. Et donc, à partir de là, on refuse d'y toucher, et ça finit par bloquer une authentique libération, et ça finit par donner le courant ultra-orthodoxe, qui en passe de devenir majoritaire en Israël, par exemple. Autre exemple, pour échapper à l'oppression raciale aux États-Unis, les Noirs développent une surmasculinité. Les Afro-Américains développent une surmasculinité. Surmasculinité qui est carencée. Et donc qui empêche également une authentique libération et qui entraîne le fait que la majorité de la communauté masculine afro-américaine aux dernières élections a voté Trump. Donc, autrement dit, les valeurs refuges carencées, la valeur refuge carencée est fétichisée et elle empêche la libération. Elle devient, elle conduit à ce que Memmi appelle dans le texte 7 un enquistement dans des institutions immobiles. Un enquistement, donc, dans la situation d'oppression. On est dans une double impasse, alors. La haine de soi conduit à une négation de ce que l'on est, mais l'affirmation de soi, c'est une affirmation de structure oppressive. C'est une affirmation de l'oppression. Dans les deux cas, la liberté semble s'éloigner. Et face à cela, il n'y a pas d'issue unique. Chaque oppression étant spécifique, la voie vers la libération sera également unique. Il y aura une libération propre à chaque type d'oppression. C'est pour cela, par exemple, que pour Mémy, les récriminations contre la dimension nationaliste de la lutte coloniale n'a pas de sens. Étant donné la colonisation, la lutte contre celle-ci, la lutte du colonisé, ne pouvait prendre que la forme d'une affirmation nationale. Et il ne servait à rien de dire « je ne prends pas parti pour les Algériens parce que moi je suis contre les nations et je suis pour le fait que je suis pour prolétaires de tout pays, unissez-vous ». Non. C'est-à-dire que dans les conditions concrètes d'oppression du peuple colonisé, pour conquérir sa libération, il devait passer par une affirmation nationale. Donc, du coup, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il faut forcément se penser différemment de la manière dont on a été pensé par l'oppresseur. Et c'est également cela, devenir un sujet historique. C'est-à-dire que c'est se définir soi-même. Et donc recréer sa propre façon de penser. Et donc du coup, il faut se créer soi-même, ce que j'ai appelé dans ma troisième partie, conquête et création de sa liberté. Le titre est très bergsonien pour ceux qui avaient assisté. Voilà, c'est-à-dire que voilà, la liberté et création. C'est-à-dire que tant qu'on reste défini par l'autre, on ne peut pas être libre. Or, l'opprimé ne dispose que de ces moyens-là pour se définir. Il pense sa liberté comme le faisait l'oppresseur. Et donc, en cela, ou plutôt, il pense sa liberté comme le comportement de l'oppresseur. Pour lui, la liberté, c'est être à la place de l'oppresseur. Et donc, en cela, il reste dans l'oppression. Donc, il faut se penser autrement, avec d'autres cadres de pensée. En fait, ce que Mémy décrit, sans le nommer, et d'ailleurs c'est très étrange, j'ai pas réussi à élucider la chose, c'est ce qu'en psychanalyse on appelle l'introjection. L'introjection, c'est le fait de faire passer un objet du dehors au dedans. Autrement dit, c'est l'intériorisation du monde dans le psychisme. On fait tous des introjections. Ça participe du fonctionnement psychique normal. Le problème, c'est ce que l'on intériorise. Ici, l'individu, ce qu'il intériorise, c'est sa situation d'opprimé. Et donc, il faut donc se penser différemment pour sortir d'une reproduction de l'oppression. Donc, cette reconstruction de soi doit aller jusqu'à ce qui nous semble le moins suspect, puisque l'oppression contamine tout notre être. Il faut prendre ce qui nous semble le moins sujet à l'oppression et le reconstruire. C'est pour ça qu'il faut... En fait, la première chose peut-être à repenser, c'est notre sensibilité pour se libérer. Ce qui paraît étrange, puisque les données des sens paraissent immédiates. Donc on ne voit pas comment l'oppression pourrait s'insérer dans les données de nos sens. Mais justement, rien n'est une donnée pure chez l'homme. Puisque l'homme est un être social, tout est médié par la société. Donc, dans une société oppressive, tout est marqué du sceau de l'oppression. Croire en un noyau au fond de nous, presque un truc stoïcien, croire en un noyau au fond de nous qui échapperait à l'oppression, c'est une illusion. Et c'est une illusion dangereuse, puisqu'elle finirait par reconduire l'oppression. Donc, paradoxalement, la première tâche, c'est de repenser ce que l'on croit libre de toute oppression. C'est ce que va proposer Marcus, donc, qui était un philosophe d'abord allemand, puis assez vite du fait de la montée du nazisme américain. Et initialement, c'est un tenant de ce que l'on a appelé le freudo-marxisme, donc essayer de faire une synthèse entre la pensée de Marx et la pensée de Freud. Donc, autrement dit, montrer comment l'oppression capitaliste s'appuie et développe, nourrit en quelque sorte, certaines pulsions psychiques. Et au contraire, comment on peut penser une sortie de ce qu'il appelle, encore dans son texte 8, dans le texte 8 de Vers la libération, le continuum répressif. Avant ça, l'épisode précédent, puisque vous voyez, le titre du livre s'appelle « Vers la libération, au-delà de l'homme unidimensionnel ». Donc, pour un peu comprendre, il faut un résumé de l'épisode précédent, à savoir « L'homme unidimensionnel », qui est le livre d'avant de Marcus. C'est-à-dire que nous vivons dans ce qu'il appelle une société unidimensionnelle. C'est-à-dire une société dans laquelle on ne peut penser aucune alternative à l'ordre social. Tout est ramené à un seul horizon. Pour Marcuse, c'est un nouveau totalitarisme, mais qui s'appuie de manière paradoxale sur une liberté de choix. Autrement dit, voilà, les sociétés de consommation, je vais expliquer pourquoi dans une seconde, ont appris des erreurs des totalitarismes violents des années 30-40, et donc ont reconfiguré les choses où ils ne s'appuient plus sur une violence, sur une contrainte sociale violente, mais sur une apparente liberté. C'est-à-dire que on multiplie les faux besoins, la consommation, on multiplie les choix factices, vous avez le choix entre Pepsi et Coca-Cola, etc. On multiplie tout ça, et non seulement, du coup, on a l'illusion de la liberté, mais même également, on a un certain exercice du libre-arbitre. Je peux réellement choisir entre Pepsi et Coca-Cola, entre Peugeot, Renault et Citroën, etc. etc. Donc, cette faculté de choix, elle est encadrée de telle manière qu'elle ne remette pas en cause le modèle social et qu'elle ne remette pas en cause l'aliénation du modèle social. L'exemple que prend Marcuse, qui est assez parlant, c'est le vote. Et c'est le vote notamment aux États-Unis. Et notamment aux États-Unis dans les années 60. On offre le choix entre un parti démocrate et un parti républicain. Mais au fond, le modèle social proposé par le parti démocrate est exactement le même que le modèle social proposé par le parti républicain. Là, donc ça, c'est le premier exemple. Dans les années 60, c'est très clair. Et encore maintenant, voilà, comme ça serait discutable. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est la société de consommation. On a des choix infinis. Prenez Pepsi, Coca, mais voilà, on a dans les magasins des choix pléthores de marchandises. On a des choix infinis, mais qui nous attachent à un modèle productif aliénant. Pour avoir ma maison, mon monospace, mon chien et mes enfants, bah, que j'ai choisi, tout ça j'ai choisi, personne ne m'y a contraint. Je vais prendre un crédit. Je vais prendre un crédit et donc du coup je suis attaché à la société après.
Pour acheter l'enfant.
Pour acheter l'enfant, oui. Bah oui, mais du coup je vais le revendre à la découpe. Et voilà. C'est-à-dire que la fausse liberté devient le meilleur instrument répressif. Et c'est ça l'unidimensionnalité. C'est un conditionnement de tout notre être, y compris de notre sensibilité. C'est-à-dire que nos sens sont habitués à une société, et donc à une certaine perception. Et donc il y a une détermination socio-historique de notre perception. On peut prendre deux exemples. C'est que quand on écoute aujourd'hui des pistes audio du début du XXe siècle, ça nous semble quasiment inaudible. Ça veut bien. Ou quand on voit des images en 4K, maintenant quand on regarde une image qui date encore, un film qui date des années 50, 60, s'il n'a pas été restauré, ça nous semble très dur. Ça veut bien dire que, par exemple, la 4K, si je prends l'exemple de la télé, la 4K a transformé notre perception en hyper-réalisation presque. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple personnel, je suis allé en Italie. Et alors, pas cette fois-ci, mais précédemment, je rencontre une amie, j'y étais pas allé depuis quelques temps, et elle me dit « Comment tu trouves Rome? Il n'y a rien qui te semble changer. » Et je voyais pas de quoi vous voulez me parler. Donc, je finis par bêtement répondre non. Enfin, il y a des soldats partout. Mais en fait, moi, en bon français, habitué à Vigipirate, Depuis que j'ai 3 ans, je ne les avais même pas vus, ces soldats. Donc clairement, notre perception est déterminée par la structure sociale. C'est-à-dire que c'est par la perception qu'on introjette la domination. Et donc, il faut se libérer de cette sensibilité dominée. Ce qui nous permettra de proposer une autre vision du monde. Et c'est le moment où il faut s'arrêter. Parce que on ne sait pas comment faire. Comment se libérer de notre sensibilité dominée. Il le dit à la fin du texte. Ça passe par une libération de l'imagination. Mais on n'avance pas beaucoup. Et d'où l'exemple, un peu ridicule d'ailleurs, du trip. Le drogué qui trip, il a libéré... Alors en plus, il dit que cet exemple ne fonctionne pas, mais c'est, en fait, c'est le seul qu'il a vaguement à disposition. Celui qui prend un psychotrope, il a libéré sa sensibilité. Bon, il s'est libéré aussi de l'envie de se libérer, donc ça ne marche pas. Mais voilà. C'est-à-dire que, autrement dit... Depuis le temps, on a un autre exemple. C'est-à-dire que si on veut se libérer de ce que l'on appelle la masculinité toxique, il faut apprendre à sentir autrement en tant qu'homme. Il faut apprendre à dire ses sentiments, à remarquer des choses que les hommes n'avaient absolument pas l'habitude de remarquer. Ah tiens, le panier à linge déborde. Oh, bah, dis donc. Voilà, des choses comme ça. Il faut faire autrement dit, il faut faire fonctionner différemment nos facultés. Parce que imagination, raison et sensibilité, ce sont nos facultés, hein, sont conditionnées pour fonctionner dans une société oppressive. Il faut les faire fonctionner différemment. Et, bon, non seulement il est bloqué parce qu'il ne voit pas bien comment faire, un homme né au début du XXe siècle, bon, voilà. Le panier à linge, lui, il ne sait même pas ce que c'est. Mais en plus, on pourrait dire que Marcus ne va peut-être pas assez loin dans son entreprise. C'est-à-dire que même s'il s'attache à faire fonctionner les instances, donc, j'ai dit, hein, raison, imagination, sensibilité, on peut rajouter l'inconscient parce qu'il s'est attaqué à l'inconscient également, donc il s'attache à faire fonctionner les instances différemment, il reste prisonnier des cadres classiques de la pensée. Et le risque, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une domination de l'homme sur le monde qui se reconstituerait alors à notre insu? Si se libérer, c'est penser par soi-même, mais que nos catégories de pensée sont forgées par la domination, il va falloir forger d'autres catégories de pensée. Autrement dit, la libération authentique exige qui a été appelé à la suite d'Enrique Dussel, une philosophie de la libération. Et voilà, il s'agit de voir à ce que cette philosophie de la libération est possible. Si on reprend le titre de Marcuse, « Vers la libération », on pourrait lui répondre, « Herbert, encore un effort, si tu veux te libérer. » Et c'est exactement ce que propose Dussel. Dussel, donc, c'est un philosophe latino-américain, argentin puis mexicain. Vous remarquez, les auteurs ont beaucoup changé de nationalité. Hein. Donc, argentin puis mexicain. Et c'est un des théoriciens donc, de la philosophie de la libération qui se pense comme une philosophie des opprimés. C'est-à-dire une philosophie, non pas qui traite des opprimés, mais une philosophie qui parte de la pensée des opprimés. Pour lui, pour Dussel, c'est la seule solution pour arrêter de faire des opprimés des objets. Pour arrêter d'en faire des objets, il faut arrêter de les penser avec les concepts des oppresseurs. Son ambition clairement affirmée, il le dit dans une lettre, il veut donner une philosophie à Frantz Fanon. Pour lui, Frantz Fanon est un activiste politique qui, pris dans le feu de l'action politique, n'a pas pu, et mort jeune aussi, n'a pas pu repenser les concepts qui serait propre à son action politique. Alors, il reconnaît que certains penseurs progressistes ont été sur la bonne voie. Il en cite 3, notamment, donc Marcuse, Adorno et Bloch. Mais même s'ils étaient sur la bonne voie, ils ne sont pas allés assez loin. Pourquoi? Parce que tous ces philosophes pensent à partir d'eux-mêmes. Autrement dit, ils pensent à partir du sujet pensant. Ça paraît logique, on pense parce qu'on est un sujet pensant, apparemment on tourne en rond. Mais tant qu'on en reste là, si on pense vraiment, et si on se souvient ce qu'on a dit avec Simone Veil, on ne peut pas sortir de l'oppression. C'est-à-dire que, autrement dit, il y a un manque, dans toute la philosophie occidentale, il y a un manque de considération de l'altérité. L'altérité qu'on pourrait définir comme le caractère de ce qui est autre, ce qui fait que l'autre est réellement un autre. C'est-à-dire que la philosophie occidentale tend toujours à ramener l'autre au même. Et donc, en faisant ça, elle nie son altérité. L'exemple classique, c'est justement comment, quand on considère autrui comme un alter ego, autre moi, eh bien, on le ramène à soi, en fait. Et donc, on ne respecte pas ce qui fait qu'autrui est réellement autrui. Et, au fond, le deuxième exemple, qui là aussi est plus qu'un exemple, c'est que c'est de toujours partir dans les analyses de l'être. La philosophie occidentale part du fait qui paraît là encore simple à vraiment tout le monde. L'être est, et on distingue cela du non-être qui, par définition, n'est pas. Sauf que l'opprimé, lui, c'est ce qui n'est pas. Donc tant qu'on n'a pas rompu cette manière de penser, on reconduit l'oppression. Donc il faut une philosophie de l'autre, plutôt que de soi. Une philosophie du non-être, plutôt qu'une philosophie de l'être. Très bizarre. Comment on fait une philosophie du non-être ? On ne nous a pas appris ça. Et pour comprendre cela, il y a une distinction centrale, qui est la distinction que Dussel fait entre le monde et le cosmos. Donc, il prend deux termes qui veulent dire la même chose, hein, le terme d'origine latine, le terme d'origine grecque, pour justement creuser sa différence. C'est-à-dire que le monde, c'est l'ensemble des étangs, des choses qui sont, telles qu'elles sont organisées dans une totalité. Autrement dit, les étangs, qu'est-ce que c'est ? C'est les choses quand elles prennent un sens dans le monde. Donc, autrement dit, le monde, c'est ce qui organise les phénomènes, ce qui organise les étangs pour leur donner du sens. Autrement dit, le monde, c'est notre horizon quotidien, en tant que nous lui donnons du sens. On parle, j'ai mon monde intérieur, et puis il y a notre monde, voilà, qui est globalement la ville du Havre, encore une fois, la plus belle ville du monde. Le monde du quartier, etc. Ça, c'est le monde. Par opposition, le cosmos, c'est tout ce qui existe. Quelle différence ? C'est qu'il y a des choses réelles, des choses qui existent, qui ne sont pas incorporées dans un monde, qui ne participent pas de la totalité de sens. On peut prendre un exemple très simple. En 1491, les Indiens d'Amérique n'appartiennent pas au monde européen. Donc ils vivent, donc ils sont dans le cosmos, ils ne sont pas dans le monde européen. Et, en fait, il y a toujours quelque chose qui est extérieur au monde, qui, dans notre monde, n'est pas. Et c'est de là qu'il faut partir pour se libérer. Donc, ce qui n'est pas, il faut partir du non-être, de l'altérité. D'où ce qu'il appelle lui-même dans le texte 9, hein, il s'agit donc d'une philosophie barbare. On part de ce qui n'est pas organisé. Le barbare, c'est ce qui n'est pas organisé dans le monde. Mais, simple, si je me contente de lui faire droit dans mon monde, je n'ai pas changé les structures qui demeurent oppressives. C'est-à-dire que si je donne le droit de vote aux femmes, mais que les structures sociales restent les mêmes, si même petit à petit je finis par les payer plus et qu'elles finissent, ce qui n'est pas encore le cas, mais si elles finissent par être payées autant que les hommes, j'ai pas changé non plus la structure oppressive du travail. C'est-à-dire que le mode productif demeure, les ouvriers seront toujours aliénés. Donc, jusqu'à présent, les tentatives de libération, ça a simplement été une modification de la frontière entre monde et cosmos. On intégrait des choses nouvelles dans notre monde. Mais on ne changeait pas les structures de domination. On peut même donner comme c'est ce qui est fait dans certains États, on peut même donner des personnalités juridiques au fleuve. Il n'y a pas de problème. Il n'empêche que si la société est oppressive, bah simplement on aura un fleuve dont on pourra porter les intérêts en justice. Ça n'ira pas plus loin. Donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire qu'il faut bien voir aussi qu'à l'intérieur même de notre monde, il y a du non-être. Au-delà des choses qui ne font pas sens pour nous, donc des choses qui sont hors de notre monde, on donne un sens à certains étangs, à certains phénomènes, on les reconnaît, mais on ne reconnaît pas toute leur existence. Et c'est ce qui se passe justement avec certains êtres humains, avec les dominés. On les considère comme des prolongements de la machine, comme une pièce du système, comme dans le film de Chaplin, Les temps modernes. C'est une pièce du système. Donc, on les ramène à notre monde sans reconnaître leur humanité. Donc, l'ouvrier à la chaîne, mais également le chauffeur de taxi. Quand on prend un taxi, le chauffeur de taxi, on le considère comme un prolongement du taxi. Voilà. On ne considère pas réellement l'humanité du chauffeur de taxi quand on prend un taxi. Donc partir de l'altérité, c'est partir de ce qui n'est pas reconnu dans mon système monde. C'est, autrement dit, entendre le cri de l'opprimé. Entendre le cri de l'opprimé et, autrement dit, non seulement, c'est ce qu'il dit, hein, parfois dans mon monde, il y en a un qui se met à crier « Je suis autre, je suis un être humain, j'ai des droits. » Tout cela devient une réalité pratique, c'est le texte 10, pardon. Tout cela devient une réalité pratique, deuxième paragraphe, hein, lorsque quelqu'un dit « J'ai faim ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'entendre le cri de l'opprimé simplement par compassion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une charité bien ordonnée, comme dans Tartuffe. Il ne s'agit pas d'aller aux prisonniers. Sinon, ça serait justement une tartufferie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire être l'autre dans notre système. Mais si l'opprimé est un non-être, vous voyez, hein, tout cela devient une réalité pratique lorsque quelqu'un dit « j'ai faim », la faim de l'opprimé, du pauvre, est le fruit d'un système injuste. Si l'opprimé est un non-être, c'est du fait d'un système injuste. Et donc, ça suppose de changer radicalement de système. De créer un monde sans cesse attentif à ce qui n'est pas. C'est-à-dire qu'à celui qui dit « j'ai faim », il ne s'agit pas seulement de l'entendre. Oh, mon pauvre, c'est bien triste ce qui t'arrive. Enfin, il s'agit, deuxième point, vous voyez, deuxième paragraphe, il s'agit d'apaiser de manière structurelle la faim de l'opprimé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, apaiser structurellement la faim de l'opprimé? C'est ne pas simplement le nourrir, mais lui permettre de se nourrir. Voilà. Et même, on peut aller plus loin, il ne s'agit pas seulement de lui apprendre à faire du pain. Mais, texte 11, il ne s'agit pas d'entendre que l'opprimé a faim, il faut donner du bon pain à la famille. Non seulement il faut lui apprendre à se nourrir, mais à bien se nourrir. C'est-à-dire que, à partir de là, on peut tirer quelques conséquences fondamentales. Première conséquence, la philosophie de la libération, ce n'est pas une philosophie irénique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le monde de oui-oui, en fait. Changer le système injuste, ça impose une lutte, et une lutte qui très probablement sera violente. Deuxième élément, ce n'est pas qu'une révolution théorique, c'est ce que montre très fortement le texte 11. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout de changer ce qu'on appelle en philosophie la praxis. La praxis, c'est les actions, les activités pratiques des hommes qui nous engagent socialement. C'est la dimension sociale de nos activités. Et au fond, la philosophie de la libération, elle remet en cause la distinction entre théorie et pratique. La distinction, séparer radicalement la théorie de la pratique, c'est justement un effet de la domination. Il y a celui qui pense et qui regarde l'ouvrier travailler. Eh bien, justement, il faut mettre fin. Il y a de la pensée dans la pratique, et inversement, la pensée est déjà une pratique. Et donc, c'est pour cela que, sans économie de la libération, hein, l'économie de la libération, premier mot du texte 11, sans économie de la libération, eh bien, la philosophie de la libération est incomplète. C'est-à-dire que la philosophie, cette pensée du non-être, cette attention à l'opprimé, elle s'incarne dans des productions. Et simplement, ces productions matérielles n'ont plus pour loi l'accumulation primitive, la loi du profit maximal, la plus-value, que sais-je. La loi de la production, c'est le service solidaire de l'autre, en tant qu'autre. Autrement dit, on repense l'économie pour la mettre réellement au service de l'homme. Enfin, dernière conséquence qui peut-être est parfois un peu trop oubliée, la libération, ça ne peut être qu'un processus au moins indéfini, voire, on devrait être creusé, voire infini. C'est-à-dire que, puisqu'on se libère en laissant être le non-être, il faut construire un monde, donc une totalité, puisque le monde c'est une totalité qui fait sens, qui fasse droit au non-être. En soi, construire un monde qui fasse droit au non-être, c'est en soi une contradiction. Donc il faudra toujours lutter contre notre tendance à exclure de notre monde le non-être. Et donc, autrement dit, seule une préoccupation permanente du non-être peut nous permettre de conquérir notre liberté. Pour conclure, l'impossibilité, très rapidement, la possibilité de la conquête de la liberté, elle reposait dans le fait qu'on voulait, pour que l'opprimé devienne un sujet historique, le faire être selon les modalités, le partage du monde construit par l'oppression. Et donc ça conduisait à une situation impossible, qui passait sous silence la destruction de l'humanité par l'oppression. Et finalement, qui conduisait à un non-respect de l'altérité de l'opprimé. Et seule une refonte complète du système, où la marge, le non-être, deviennent à la fois la clé d'interprétation, l'objectif de nos actions, peut amener une difficile liberté, pour paraphraser le titre d'un livre de Lévinas. Et peut-être en guise de contrepoint, quelques perspectives critiques sur la philosophie de la libération. On peut se demander si c'est vraiment pertinent dans une époque où on est plutôt au repli sur soi. Est-ce qu'on ne va pas trop loin en allant chercher toujours le non-être ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se contenter de donner des droits aux opprimés ? Est-ce que ce ne serait pas déjà une première étape et se limiter à ça ? Alors, deux petites remarques. C'est ce qu'on entend monter actuellement. Hein, voilà. N'allons pas trop loin dans la direction de la libération. Ce qui est tracé par la philosophie de la libération, c'est un idéal, c'est une méthode. Être attentif au non-être des opprimés, cela ne se limite pas à l'attention portée aux minorités. Il ne s'agit pas d'être attentif au non-être de la tribu indienne ou voilà, des minorités sexuelles, etc. etc. Ce n'est pas que, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Il s'agit aussi d'être attentif à la négation de l'humanité dans tout autre, y compris chez mon voisin. Pas mon voisin. y compris celui qui se replie sur lui-même. C'est-à-dire que même celui qui a une tentation nationaliste, qui est opprimé, il faut être attentif au non-être qui est en lui. Et sans cela, la libération ne sera jamais complète. Ce qui veut dire que, pareil, ce qu'on entend souvent dire, c'est que la philosophie de la libération conduit à une fétichisation. L'opprimé a forcément raison. Voilà, donc ça fait... On promeut les réunions en non-mixité, des choses comme ça. Mais justement, il me semble que c'est un contresens, puisqu'il faut être attentif au non-être dans l'autre, voilà, on ne peut pas fétichiser l'opprimé. On peut simplement le laisser être. Voilà. Ce sera mon dernier mot.
C'est terminé. Oui. Merci. Donc, la parole est au Mas.
Gandhi qui voulait faire une révolution non violente.
Alors, mais Gandhi, là-dessus, il fétichisait l'hindouisme. J'aurais tendance. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'Inde contemporaine, actuellement. Même si Modine a un peu de mal avec l'héritage de Gandhi, il y a quand même une fétichisation de l'hindouisme. Voilà. Et on peut aussi parler de Mandela. C'est-à-dire que la non-violence de Mandela, peut-être qu'elle était inévitable dans la situation historique de l'Afrique du Sud en 90. Néanmoins, elle a conduit à une oppression économique terrible de la communauté noire sud-africaine. Oui.
Toujours pour rester sur le sujet de la violence, quel est le rôle de la violence dans la philosophie de la liberté ?
Alors, justement, il me semble. Alors, attention, quand je dis la philosophie de la libération, ça commence tout juste à être traduit en France. Et je ne suis pas hispanisant, donc j'ai pas pu avoir accès vraiment au texte. Il dit que ce sera violent, et alors comme il veut donner une philosophie à Fanon, et que Fanon est un peu l'idole de cette philosophie décoloniale, il évite un peu de trop rentrer en contradiction. Néanmoins, si on est cohérent, la dimension... Justement, l'idéalisation de la violence ne colle pas avec le système mis en place par Dussel, enfin avec la théorie de Dussel. C'est-à-dire que la violence soit un moment, qu'elle soit nécessaire, voilà, je pense que ça colle beaucoup plus avec ce que dit Mémy là-dessus, à savoir que oui, il faudra en passer par la violence, mais il ne s'agit pas non plus de faire de la violence l'alpha et l'oméga de la construction du peuple. Mais honnêtement, je pense que Fanon, quand il écrit ça, il est vraiment dans l'action, et c'est aussi une manière pour lui de justifier des choses un peu dures qu'il voit. S'il avait vu comment a tourné la révolution africaine, la révolution algérienne après l'indépendance, est-ce qu'il aurait maintenu ses positions ?
Il a déjà été au contact de...
Ah, de trucs. Oui, bien sûr qu'il a été. Il a, mais voilà, je pense que ça le fait tenir.
Non, mais même, il a vu.
Oui,
dont les amis a été liquidé.
Oui. Oui. Oui, mais quand on est dans la lutte, on peut peut-être se. Voilà.
Il se disait sans doute qu'il n'y avait pas le choix.
Oui.
Voilà.
Je ne sais pas si, du coup, ma réponse n'est pas complète, mais il faudrait. Oui.
J'avais une très mauvaise expérience en France. Je m'aperçois qu'on peut passer d'un monde libre à un monde oppressif. Je vis aux États-Unis la moitié de mon temps, ça fait 40 ans. Et je peux vous dire que j'ai connu l'Amérique libre, d'une certaine manière. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait, si je veux dire. Et tout le monde acceptait ce que chacun faisait. À aujourd'hui, une oppression violente qui s'installe, avec l'administration Trump, toute l'Amérique est désarmée. Je peux vous dire, c'est un choc, une atmosphère que j'apprécie d'être en France en ce moment.
Alors,
la crainte, la peur, toutes ces choses-là existent. Et on est en train de passer d'une société libre, disons, pas tellement l'histoire des réseaux sociaux, etc. Non, je suis d'accord avec vous.
C'est pas à ça que je pensais.
Mais d'une société relativement libre, où chacun, une constitution qui fait quelques pages, où chacun faisait ce qu'il voulait, quand il le voulait, et tout le monde l'acceptait. sans... Quand j'en suis arrivé aux États-Unis, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Il fait ce qu'il veut. S'il veut faire ça, il le fait. C'est... Et c'était accepté. Le non-être, si j'ose dire, d'une personne, en quelque sorte. Oui, bon, ça va pas aussi loin. Soyons, on est des êtres humains. Mais alors aujourd'hui, avec ces executive orders, bah, qui sont des règles qui n'existaient pas, évidemment, hein, pour imposer une oppression par les milliardaires américains, c'est très mal vu, c'est très mal ressenti, et ça fait très mal. Alors, est-ce qu'on ne vit pas, en ce moment dans le monde entier d'ailleurs, un passage de la société relativement libre, peut-être par exemple, hein, d'accord, vers une société beaucoup plus oppressive?
Alors,
c'est ça qui me fait apprécier la liberté. Si
oui, oui. Je vais répondre de plusieurs, à plusieurs niveaux. Bien entendu qu'il y a des degrés dans l'oppression. Le degré extrême étant peut-être l'oppression coloniale ou l'oppression totalitaire. Néanmoins, dire que les États-Unis étaient une société libre... Si je suis pas sûr que les communautés amérindiennes, dont la culture a été complètement liquidée, je suis pas sûr que les communautés noires telles que peuvent le montrer, le réalisateur de Moonlight, qui montre clairement la vie de la communauté noire, y compris de la communauté noire de la classe moyenne aux États-Unis, je suis pas sûr qu'on puisse parler de liberté. Voilà, quand vous risquez de vous prendre une balle parce que votre regard ne plaît pas aux policiers.
Oui, voilà. Mais vous avez raison.
Donc, après que du coup l'oppression, et même que l'oppression se mette à toucher certains qui n'étaient pas touchés avant par cette oppression, oui, c'est un fait, et l'oppression gagne. Et que le régime de Trump, même si on n'a pas beaucoup de recul, tendent à un certain fascisme, c'est ce que les historiens du fascisme, il y a l'air d'avoir un consensus, hein, là-dessus, Audouin Rousseau, des gens comme ça, ont l'air de dire assez clairement qu'on s'approche d'un fascisme presque...
On étudie Montesquieu, c'est exactement ce qui se passe.
Le fascisme, il y a quelques dimensions en plus par rapport à une dictature, mais... Et l'autre élément, c'est que, justement, c'est en plus de cela... Il n'y a peut-être pas eu réellement, au-delà des communautés qui étaient vraiment opprimées fortement, même la classe, le white angry man, la classe ouvrière américaine, elle n'était pas si libre que ça, en fait. Alors certes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais en fait, elle allait voir un médecin véreux qui lui prescrivait des opioïdes parce qu'elle avait un peu de fièvre et elle devenait accro aux opioïdes. Bon, et... C'est cette classe ouvrière qui a porté Trump au pouvoir. Alors, c'est peut-être la dinde qui vote pour Noël. Mais néanmoins, voilà. En effet, il y a un recul des libertés publiques aux États-Unis. Il ne s'agit pas de le nier. Et sûrement que le discours que je tiens ne pourrait pas être tenu... Alors si, je pense que notamment Berkeley, Harvard, Columbia, les grandes universités, voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans une société encore moins libre. Mais on ne peut pas dire qu'on soit dans une société libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre de... Et l'autre élément, la finesse... De la Constitution, je suis pas persuadé que la finesse de la Constitution américaine.
Du tout. Elle est très simple. Au contraire.
Oui.
Elle est très
non, simple. Fine. La
non.
La.
Non, non, mais même elle dit chacun arrive pour la poursuite de son bonheur. Il y a peu de constitutions qui parlent du bonheur. Hein, je le signale.
Oui.
Mais la Constitution américaine, dans son préambule, en parle.
Mais.
Donc, si vous voulez. L'idée est bonne. Bon, alors la réalisation, elle est effectivement imparfaite. Hein, ça, je vous le dis, je vous l'accorde. Mais si vous voulez, moi, je me suis expatrié aux États-Unis pour ces petits mots. Hein.
Oui.
Vous lisez la Constitution française d'abord.
Mais il me semble que ce dont on parle là, c'est pas tant une conquête de la liberté plutôt que du rapport à l'état de droit. Ce que Trump est en train de détruire,
oui.
Avant, en plus des libertés, alors, c'est l'état de droit.
Vous voyez l'état de droit face à la liberté.
Alors, c'est... on refait une. J'ai une heure de. Oui, oui. C'est même fondamental puisque. Il y a un rapport, je dirais qu'il y a un rapport dialectique, mais je vais y aller très vite, et je sais pas, à savoir que d'un côté, tout droit est l'expression d'un rapport de force. Et donc, de fait, il est la manière dont les puissants arrivent à imposer leur rapport de force. En cela, opposer le droit à la violence n'est pas totalement juste. Néanmoins, il est peut-être, malgré tout, ce que disait Veil, puisque l'ordre social est un mal nécessaire, il est peut-être le moins mauvais. Enfin, on pourra peut-être jamais se passer de droit, sauf peut-être au royaume des cieux. Si, voilà. Mais à part ça, voilà, on ne pourra pas se passer de droit. Donc, de fait, l'état de droit est une nécessité. Et donc... comment dire ? Attaquer l'état de droit, c'est tendre vers un monde où il y aura davantage d'esclaves et davantage de masse aussi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant fétichiser l'état du droit actuel. Il faut tenir les deux aspects de la lutte, je crois.
Une chose aussi, quand on parle des atteintes à l'état de droit, on parle aussi du fait que l'État était limité tout de même
oui.
dans ses prérogatives. Il ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment, de manière arbitraire. Oui. Effectivement, la remise en cause de l'État de droit,
oui.
c'est quand même...
Ah oui,
on fait sauter les...
Après,
les limites.
Comme tu m'as dit que tu travaillais Montesquieu, j'ai aussi un petit peu
voilà,
contourné
cette question. Surtout, c'est que l'État, lui, est au-dessus des lois et il s'impose... Il impose effectivement des ordonnances. Il fonctionne par décret, par ordonnance.
Mais je tiens à dire qu'on est loin d'être protégé en France de cette remise en cause de l'état de droit. Je rappelle qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a quand même dit il y a moins de 6 mois que l'état de droit n'était pas intangible.
C'est pas tabou. Hein,
voilà. Je ne veux pas attaquer les subventions.
C'est une construction fragile, de toute façon, l'état de droit. Il peut très vite être...
Oui, oui, la preuve, là, en quelques... Mais c'est exactement la même chose. Quand le parti d'extrême droite est arrivé en Pologne, tous les intellectuels polonais pensaient qu'il y en avait pour... que c'était une affaire de 6 mois, ils ont mis 10 ans à s'en débarrasser. Et même chose quand Hitler arrive au pouvoir, bon, bah, oui, c'est... On va en avoir pour quelques mois et même chose, ça dure 15 ans. Est-ce qu'il y a...
D'autres interventions, d'autres questions ?
Alors,
on n'est pas tout à fait sur le même niveau de liberté, j'imagine. celle qui peut présenter dans la nécessité de la conquérir, elle m'a paru plus sociale et politique, que celle qui est la fatalité est plus existentielle.
Alors, c'est quand même quelque chose. Sartre a quand même préfacé le livre de Mémy, le livre de Fanon.
Justement, je pose la question parce que voilà. Il n'y a aucune référence à Sartre dans votre démonstration.
Non. Alors, avec Mémy, en plus, il y a des rapports compliqués sur la suite du parcours. Mais, alors, chez Sartre, l'homme est condamné à être libre. En gros, pourquoi ? Parce qu'il n'est rien et qu'il va se construire via son projet d'existence. Ouais, je fais très, très court. C'est-à-dire qu'il faut se projeter dans l'avenir et quelque part, on se définit, c'est nous-mêmes qui nous définissons, qui posons nos valeurs. Le projet d'existence, ça, c'est les valeurs. Sauf que pour être libre, réellement, il faut assumer ce projet d'existence. Il faut pas tomber dans ce que Sartre appelle la mauvaise foi, les salauds. Les salauds, c'est ceux qui n'assument pas leur projet d'existence. Voilà. La mauvaise foi, c'est « Ah bah oui, j'avais pas le choix. » Voilà, enfin, j'avais pas le choix. C'est exactement la phrase de Sartre. Hein. Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation, parce que bon, fallait faire un choix. Bon. Voilà. Mais donc, du coup, ça, c'est le Sartre de l'être et le néant et de l'existentialisme et d'un humanisme qui va être pas amendé, mais retravaillé par un texte qui est bon, quand même plus compliqué, qui est la critique de la raison dialectique. C'est-à-dire que, justement, face, alors, on va pas dire des contresens, mais au moins une simplification et les attaques des communistes où voilà, ça devient chacun peut être ce qu'il veut, etc., etc. Il va articuler cette pensée de l'existentialisme, où vraiment on construit son existence, avec les déterminismes sociaux. Avec notamment, alors je le fais avec mes souvenirs, hein, mais grosso modo, une opposition entre la praxis qui est la construction d'une activité libre, avec ce qu'il appelle le practico-inerte, c'est-à-dire qu'on est récupéré par les structures sociales et on se laisse un petit peu dominer par ces structures sociales. Et si vous voulez, autrement dit, ça affine un petit peu, à savoir que l'aliénation n'est pas forcément le fait que du salaud. On peut aussi être soumis à des conditions tellement dures que il est difficile de trouver son projet d'existence. Et de s'assumer. Donc il n'y a pas forcément une opposition avec Sartre, surtout que justement, l'homme peut et doit même faire son histoire. L'idée, c'est juste comment on le fait. Comment on le fait. Ce sur quoi Sartre, du coup, a assez peu lui-même écrit. Mais il a fait les préfaces de tous ces gens. On peut aussi, sur comment on devient sujet de l'histoire quand on est femme, bon, c'est Beauvoir. Et qui, certes, on a tendance à réduire Beauvoir à tort, parce qu'il y a beaucoup plus que ça, à l'application de Sartre au féminisme, alors qu'en fait, elle reprend Merleau-Ponty, elle retravaille, elle a des concepts qui lui sont propres. Mais malgré tout, on est quand même dans une philosophie existentialiste. Donc, si vous voulez, c'est plus du Sartre concret, plutôt qu'une opposition avec Sartre. Sartre qui, voilà, c'est le philosophe qui descend pas trop de sa montagne Sainte-Geneviève, enfin, si, pour aller à Montparnasse, quoi. Mais voilà. Enfin, si, il est venu ici. Oui. Mais ça, pour le coup, c'est déjà... Oui, oui. Ça, pour le coup, c'est déjà dans l'existentialisme et dans l'humanisme. Malgré quelques...
Et l'être et le néant.
Oui,
qui est... Parce que l'existentialisme, bah, que... je pourrais faire le texte le néant.
Je sais que t'aimes pas trop. Moi, je trouve que c'est une bonne vulgarisation, quand même. Même s'il y a forcément, comme toute vulgarisation, il y a des points sur lesquels ça tient pas totalement, mais...
Non, mais ce qui est vrai, c'est la difficulté, c'est de comprendre avec un auteur comme celui-ci ce qu'il en est exactement du sens même de cette notion de liberté. Parce qu'effectivement, on est libre, on ne choisit pas d'être libre ou non, c'est notre être. Hein, bon. Donc on a, de ce point de vue-là, pas à la conquérir, la liberté, puisqu'elle est constitutive de notre être. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a un processus permanent de reconquête, puisqu'on est gagné constamment par la mauvaise foi, par tout un... Et alors évidemment, il y a une évolution entre les deux.
Oui.
Le premier, où il parle plutôt de liberté en situation, tandis que dans le deuxième texte dont tu parlais,
oui,
il est beaucoup plus question de système.
Oui.
Hein, et la colonisation est un système, on parle du système colonial, etc.
Je pense que c'est
alors,
essentiel dans la démonstration, c'est-à-dire
dans mon souvenir de lecture, le terme d'oppression n'est pas si fréquent.
Dans ma démonstration, l'oppression...
Est... Oui. Ah oui, dans ma démonstration, l'oppression...
Dans la démonstration, c'est une oppression perpétuelle.
Qu'on doit, oui.
Oui. Il y a de très beaux textes, enfin, textes vraiment très intéressants de Sartre, qui sont réunis dans un recueil qui s'appelle Situation,
oui,
cinquième partie des Situations, où il y a la préface, oui, la préface à Fanon, les préfaces aux textes de Mémy, et puis il y a un article sur la colonisation est un système.
Oui, ça, c'est pas la préface à Césaire.
Ça, c'est un texte indépendant. C'est une conférence qu'il a prononcée.
D'accord.
Et qui est au fond un peu en réponse à Camus. Hein, c'est une critique. Et effectivement, là, on voit une pensée qui ne se contente plus au fond de cette espèce de dualité qu'il y avait entre la liberté et la situation. Quoi, c'était un peu ça. Là, on voit bien qu'il y a un système qui, en quelque sorte, absorbe et le colonisateur et le colonisé.
Ouais. C'est l'exemple de l'arrêt de bus dans la critique. Voilà. On est à l'arrêt de bus et puis on se laisse happer par le monde social et on perd notre liberté, comme ça.
Et il montre, par exemple, que le racisme, c'est pas un choix. Par exemple, dans les premiers textes, il aurait dit que c'était un choix.
Oui.
Tandis que là, c'est carrément...
C'est la structure sociale.
Qui engendre. Hein, c'est-à-dire que... c'est inhérent au système, quelque sorte. On ne peut pas ne pas être raciste si on est dans le système colonial, si on colonise. On est pris dedans.
Ce qui est un fait. C'est-à-dire que les membres de la communauté européenne non raciste en Algérie étaient une telle infime minorité. Voilà.
Oui, et puis... Puis même, quand on voit quelqu'un comme Camus, certes, il s'est soucié de la question des indigènes, c'est vrai, mais en même temps, il avait une position morale qui conduisait à s'abstraire de cette situation conflictuelle.
Justement, c'est-à-dire que le problème de Camus, notamment dans L'homme révolté, c'est presque une... Il reconnaît la nécessité de la violence, mais la violence conduit forcément mal. Donc on est, enfin,
voilà, il a un point de vue moral,
essentiellement. Il y a des très beaux textes dans L'homme révolté, notamment tout le début. L'homme révolté, c'est celui qui dit non. Voilà. Mais après, ça tourne très vite en une condamnation de toute action politique qui va forcément... Forcément, il y a des choses pas très jolies dans l'action politique. Voilà. Et donc ça permet à Camus de condamner assez radicalement toute forme d'action politique. En cela, on va dire, dans ces textes de l'immédiate après-guerre, il y a le texte de Merleau-Ponty sur humanité et terreur aussi, qui arrive bien à tenir justement cette limite de... l'action politique suppose que... on agisse, et donc si on agit, notre idéal, on ne peut plus parler d'un idéal pur, quoi. Enfin, voilà.
Il va...
Voilà, on a les mains sales, oui, c'est... Et dans La guerre a eu lieu aussi, il y a un article de Merleau-Ponty dans Sens et non-sens où il explique ça assez bien.
On peut facilement parler d'oppression collective. Est-ce qu'on peut parler de liberté collective? Parce que dans tout ce que vous avez dit, c'était la liberté de chacun.
Alors, j'avais pris soin de laisser ça dans le flou. Et que ça puisse aussi être notamment la liberté du peuple.
Ben voilà.
Alors, je ne sais pas si tu as prévu de parler du contrat social.
Ah ben j'en ai parlé à travers la lecture de Montesquieu, ce qui est une lecture critique des théories du contrat social.
Parce que le problème que se pose Rousseau dans le contrat social, c'est ça. C'est comment on obtient la liberté collective? Et la réponse de Rousseau, c'est que même la liberté réelle, c'est une liberté collective. Une liberté individuelle fondée sur l'esclavage ne vaut rien. La seule liberté... Et de fait, c'est quelque part ce que disent tous les auteurs. C'est-à-dire qu'ils se placent du point de vue individuel, mais la liberté qu'ils obtiennent en tant qu'individu n'a de sens que dans un collectif libéré. Le cas le plus simple, c'est la colonisation. C'est-à-dire que quelqu'un comme Mémy, qui naît d'une famille juive pauvre, dans le ghetto de Tunis, qui devient, par le système républicain, un intellectuel, il aurait pu se contenter d'une liberté individuelle. Mais voilà, cette liberté individuelle, pour lui, n'avait pas de sens si elle ne prenait pas place dans une liberté. Vous voyez, le colonisé, c'est à la fois un individu, mais il est membre d'un groupe. Les colonisés. Et il ne pourra avoir sa liberté que si l'ensemble de son groupe met fin aux structures coloniales externes et internes. Donc il y a toujours aussi... La seule pour laquelle il ne peut pas y avoir de liberté collective, c'est Veil. Veil, voilà, la société, l'ordre social, c'est toujours un mal et on est toujours rattrapé. En cela, elle reste quand même assez platonicienne. On est toujours rattrapé par le gros animal.
Alors moi, juste une petite précision. Je ne pense pas que les théoriciens du contrat social soient les mieux placés pour montrer la dimension collective de la liberté. Enfin, je m'explique.
Oui, je vois.
Je veux dire par là, par exemple, justement, l'intérêt de la lecture de Montesquieu, c'est de montrer qu'il n'y a pas de liberté naturelle.
Oui.
Au sens où il y aurait, au fond, on aurait en nous-mêmes cette capacité d'être libre de décider par nous-mêmes, etc. La liberté, elle est formée.
Oui,
je le dis, hein, elle est formée par la société. C'est-à-dire qu'elle ne peut exister qu'à partir du moment où on a affaire à une société organisée selon un droit qui s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que si je suis libre, c'est dans la mesure où ceux qui sont avec moi, qui vivent dans la même société, jouissent des mêmes droits. Il ne peut pas y avoir d'opposition entre la liberté individuelle de ce point de vue-là et puis la liberté collective.
Oui, c'est pour ça que je ne parlais pas des théoriciens, je parlais du texte du contrat social avec notamment la notion de volonté générale.
Oui,
c'est-à-dire ce qui permet la liberté collective et ce qui permet de la liberté tout court, c'est la volonté générale. Qui est créatrice du droit et d'un droit qui serait non oppressif. Et donc, autrement dit, quelque part... il y a un texte dans des lettres écrites de la montagne. Il ne faut pas confondre indépendance, liberté
et liberté. Il reprend Montesquieu.
Carrément. Oui.
Il n'y a pas de liberté sans loi. Et donc, par conséquent, la liberté, nécessairement, elle a une dimension collective. Elle n'existe qu'en société.
Et voilà. Même se poser la question d'une liberté naturelle, oui, c'est une remarque.
Ou alors, pour pouvoir s'envisager libre, sans se poser la question de la société, il faut être tyran.
Après, il y a les stoïciens qui résistent à ça.
Oui, alors
le stoïcisme, une liberté vraiment, mais c'est vraiment une liberté intérieure.
Ou ermite.
Alors, c'est souvent ce que répondent les élèves quand on parle de. voilà. Mais l'ermite, il amène la société avec lui. L'ermite, il amène la société avec lui. Il écrit pour la société. Souvent, l'ermite, il passe pas son temps à rien faire, en fait. Il médite. Et donc, souvent, il se veut un intercesseur entre Dieu et la société. Donc, il est encore en lien avec la société.
Encore une dernière question ? Une dernière intervention ? Eh bien, il nous reste à te remercier.
Merci.
Voilà. Merci.